Bon, ben, on va passer à Maya Lavo, donc notre dernière intervenante. Maya Lavo, encore une fois, vous avez sa biographie relativement détaillée. Là, Maya Lavo est agrégée de lettres et membre de l'équipe Proust de l'ITAM. Elle a écrit une thèse de doctorat sous la direction d'Antoine Compagnon sur le secret. Le thème du secret chez Proust. Et le titre de son intervention aujourd'hui, c'est « À la recherche du temps perdu, de l'essai fictionnel à la fiction critique
» Merci Elisabeth. Tout d'abord, je voudrais remercier Antoine Compagnon pour cette invitation qui me donne le plaisir de revenir le temps de cette communication en des lieux que j'ai eu le bonheur par le passé de fréquenter bien plus assidûment qu'aujourd'hui. Qu'il s'agisse géographiquement de cet amphithéâtre ou bien mentalement et intellectuellement de la question de l'essai dans À la recherche du temps perdu. À Louis de Robert, qui avait insisté en lisant les épreuves de Du côté de chez Swann pour que Proust atténuât la scène de sadisme à Montjouvain, celui-ci répondit qu'il ne pouvait, je cite, modifier le résultat d'expérience morale dont il était obligé de donner communication avec une bonne foi de chimiste. Par cette déclaration, l'auteur de la recherche met en évidence la portée de l'invention fictionnelle à laquelle l'usage scientifique et les critères qu'il met en place servent de référence. En effet, il semble que l'une des ambitions de Proust dans la recherche soit de tirer parti de ce pouvoir heuristique de la fiction, alors envisagé comme réservoir de scénarios imaginaires mis au service d'une réflexion spéculative. Cette conception de la fiction va de pair avec l'adoption d'une forme d'écriture qui contribue à dramatiser la dimension épistémique du propos selon des procédés qui relèvent aussi bien de la technique romanesque que du genre de l'essai. Ainsi pourrait se comprendre l'application à la recherche de la formule essai romanesque, telle que l'a formulée Marielle Massé dans son ouvrage Le temps de l'essai, histoire d'un genre en France au XXe siècle. Ou encore celle d'essai fictionnel, choisie par Vincent Ferré dans L'essai fictionnel, essai et roman chez Proust, Brors dos Passos. Selon Vincent Ferré, l'emploi du terme essai est souvent utilisé de manière interchangeable avec ceux de théorie, de philosophie, de réflexion, voire de méditation, ou encore de loi générale ou de commentaire, et il mérite d'être défini selon les caractéristiques génériques qu'il revêt à l'époque où Proust écrit la recherche. Le terme désignait alors un texte en prose non fictionnelle à visée argumentative, caractérisé par sa diversité formelle et thématique, par un rapport au réel et à la vérité différent de celui du discours de savoir, la vérité étant le but de l'essai, qui possède alors une dimension expérimentale visant à approcher une vérité. Il est aussi caractérisé par sa subjectivité, puisque le lecteur assiste à une pensée en train de se faire, développée par une personne réelle qui cherche à persuader son lecteur. Il est caractérisé enfin par son ton, sa non-exhaustivité, sa non-systématicité, son écriture souvent fragmentaire ou encore son argumentation plurielle et marquée par une certaine désinvolture méthodologique. Ainsi, la recherche par la visée de connaissance de soi et du monde que Proust accorde à la littérature dans les pages mêmes de son livre pourrait relever de la catégorie de l'essai, mais à la fiction près. C'est pourquoi Vincent Ferré propose de forger la catégorie d'essai fictionnel, qu'il définit comme, je cite, une mimésis de ce discours non fictionnel qu'est l'essai. Selon lui, l'essai sert à la fois pour l'auteur et pour le lecteur dans son processus d'identification de modèle à un discours théorique inclus dans la fiction. Pour autant, cette caractérisation de la recherche comme essai fictionnel que j'emprunte ici ne résout pas tous les problèmes posés par le mode d'énonciation particulier qu'adopte Proust, et il laisse en suspens un certain nombre de questions, dont la plus épineuse me semble être la relation exacte qu'entretiennent au sein de la trame romanesque récit fictionnel et réflexion de nature essayistique. Peut-on en effet se contenter de considérer la fiction comme une forme englobante, générique, à laquelle l'essai serait en fin de compte subordonné? Et dans ce cas, que faire alors de certains énoncés problématiques dont la référentialité affichée nous oblige à les attribuer à l'auteur? Ou bien faut-il envisager qu'à l'intérieur de ce cadre générique fictionnel, mimant la démarche propre à l'essai, Les relations entre fiction et essai sont souvent plus complexes et obéissent plutôt au régime de l'interaction, de la réciprocité, voire de la fécondation, ce qui impliquerait que l'un agisse sur l'autre, que l'un nourrisse l'autre sans que l'on puisse définitivement accorder la primauté à l'un ou à l'autre, un peu à l'image de cette tierce forme dont parlait Barthes ou encore de ce fameux anneau de Möbius, parfois convoqué comme métaphore permettant de cerner au plus juste l'étrange énonciation qui caractérise la recherche. Je me propose donc d'aller analyser d'un peu plus près ce lien entre fiction et essai dans la recherche à partir de moments qu'on ira explorer. Alors pour commencer, j'aimerais revenir au terme employé par Proust dans sa lettre à Georges Doloris, qui date de décembre 1908, et qui témoigne du questionnement initial de l'écrivain sur la forme à donner à son œuvre. Elle est bien connue, je la relis. « Je vais écrire quelque chose sur Sainte-Beuve, j'ai en quelque sorte deux articles bâtis dans ma pensée, articles de revue. L'un est un article de forme classique, l'essai de Taine en moins bien. L'autre débuterait par le récit d'une matinée. Maman viendrait près de mon lit et je lui raconterais un article que je veux faire sur Sainte-Beuve et je le lui développerai. » La citation donc est bien connue. Elle montre que ce qui a pu être ressenti comme problématique, ou du moins n'allant pas de soi pour Proust à l'époque où il met en route le projet du contre Sainte-Beuve, était la forme romanesque. On témoigne également la fameuse interrogation notée dans le carnet 1, « Faut-il en faire un roman, une étude philosophique ? Suis-je romancier ?» En effet, l'alternative annoncée dans la lettre à Georges Doloris pose bien l'essai comme forme modèle, l'essai de Taine en moins bien, dont l'autre forme, l'autre article, plus problématique, serait envisagé comme une variation, un pas de côté en quelque sorte, à laquelle Proust n'assigne pas de catégorie donnée a priori et qu'il désigne par un résumé de son contenu, ou plutôt simplement par son incipit, plutôt que par sa forme, puisqu'il dit « l'autre débuterait par ». Il s'agirait donc du récit d'un essai enchâssé dans un récit, bref, d'un essai raconté. Les termes employés ici par Proust sont éclairants. Il s'agit d'un projet, comme l'indique le verbe « je veux faire ». Il ne s'agit pas non plus à proprement parler d'un récit, mais plutôt d'un discours, puisqu'il est adressé à maman. Et on peut supposer qu'une part serait laissée au dialogue, à la conversation, aux commentaires, voire à l'explication pédagogique. Le résumé de l'article alternatif sur Sainte-Beuve se présente donc comme la greffe d'une conversation critique sur une trame narrative mettant en place un scénario minimal et économe d'inspiration autobiographique avec la référence à maman, selon un dispositif qui articulerait narration et critique tel que Proust l'a déjà pratiqué dans ses articles de jeunesse. Ainsi, la dualité du projet initial investit en quelque sorte l'hésitation générique comme forme d'écriture qui permettrait l'intégration de la réflexion critique à un cadre narratif englobant. Le récit opère en cela une mise à distance du propos théorique. Contrairement à l'essai, le récit ne compte pas réaliser effectivement l'étude critique, mais la raconter en la maintenant à l'état de projet. Ce faisant, le récit désigne, il exhibe même, la distance qui sépare le jeu qui produit le discours critique dans la situation narrative et le jeu qu'il écrit réellement, sans médiation, en tant que Marcel Proust dans le premier projet. Ainsi, cette lettre à Georges Doloris pose les bases d'un questionnement générique auquel la recherche a fourni une réponse, mais une réponse qui garde la trace des ambiguïtés du projet initial, rendant problématique ce rapport du jeu de l'énonciation à la personne de l'écrivain. Ce questionnement de Proust au moment de se mettre au contre Sainte-Beuve exprime donc ses préoccupations. C'est que le sujet même de l'essai incite à une réflexion sur le choix d'une forme d'écriture qui coïnciderait avec le propos théorique. En effet, le second projet, le récit d'essai, serait en quelque sorte une démonstration en acte, sans la médiation du raisonnement ou de l'intelligence, démonstration de cette distance qui sépare le moi intime et le moi social, pour parler en termes proustiens. Mais à y regarder de plus près, il apparaît pourtant que ce projet de récit, malgré l'horizon autobiographique qu'il suppose, s'inscrit dans une optique fictionnelle. C'est en effet ainsi qu'on peut comprendre l'emploi du conditionnel « maman viendrait » qui installe le récit dans l'espace de la fiction, sur le mode d'une simple hypothèse, proposition, qu'on pourrait formuler comme « imaginons que maman vienne ». Le pas franchi dans la recherche et l'abandon pur et simple de cette mise en scène un peu artificielle pour donner non pas le dialogue même intérieur du narrateur, mais le mouvement d'une pensée au moment où elle se forme, au sein d'une expérience sensible, tout en mettant par ailleurs en scène ce personnage, ce jeu qui tient le discours théorique. La fictionnalisation de l'essai critique passe ainsi par une transformation du « je » autobiographique, référant explicitement à Proust, en un protagoniste qui semble raconter ses souvenirs. Ce passage à la forme romanesque, donc du contre Sainte-Beuve à la recherche, pourrait se comprendre comme une prise en charge de l'essai par la fiction. L'énonciation produit une fiction dans laquelle elle met en scène un « je » qui, ayant l'air de raconter sa vie, donne l'illusion d'exister, pour en référer aux travaux de Françoise Le Riche, comme en dehors de et avant toute énonciation. La recherche mettrait ainsi en place les conditions d'énonciation d'un exercice de pensée qui s'appuie sur la mise en fiction. Elle place son énonciateur, le jeu, dans des situations imaginaires et analyse ce qui arrive, rejoignant ce faisant la vocation première de l'essai. Le jeu des premières pages, qui imprime sa marque à l'œuvre, est en effet défini comme le lieu d'une réflexion sur soi et sur le monde, comme le sujet d'une expérience placée d'emblée sous le signe de la production fictionnelle. Alors, j'ai remis le début de la recherche du temps perdu, je ne vais pas forcément relire la citation, elle est très bien connue, mais effectivement, on voit que dès les premières lignes, il me semblait... Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. On voit que dès ces premières lignes, ce processus de fictionnalisation est lancé. J'ai indiqué donc les références qui renvoient à l'édition de Jean-Yves Tadié dans la Pléiade. Ce jeu qui parle et qui pense, invente, lance une fiction dont il est lui-même le sujet. Il permet le glissement sans heurts d'un jeu protagoniste d'un souvenir d'inspiration autobiographique que la narration va placer au centre d'un petit scénario fictionnel lié à la situation de l'endormissement, au « il » qui interviendra plus tard, et qui intervient déjà au bas de cette citation, « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. » Autour de cette figure de l'homme qui dort, du dormeur, se met en place un hypothétique, onirique et déjà fictionnel, dormeur-voyageur. Il est intéressant, en effet, de noter que ces amorces fictionnelles qui jalonnent l'incipit de la recherche correspondent à des récits d'endormissement et de réveil qui fictionnalisent l'un des sujets privilégiés de la réflexion du narrateur, le sommeil. L'œuvre contient en effet plusieurs passages sur le sommeil qui, comme dans ses premières pages, combinent réflexion théorique et ébauche de fiction par le truchement de subtils glissements énonciatifs qui soutiennent l'enchaînement de motifs récurrents, le même sujet pouvant faire l'objet à la fois d'un récit ancré dans la trame romanesque et d'un exposé théorique. J'aimerais donc, dans un second temps, me pencher sur l'un de ces passages pour regarder d'un peu plus près la manière dont s'effectue, au sein de la trame romanesque, cette imbrication entre essai et fiction. Et j'en viens donc à ce passage de Sodome et Gomorre 2, au retour de la soirée à la Raspelière, où le récit glisse à une réflexion sur le sommeil qui fait écho à l'incipit ou l'expérience de désorientation spatio-temporelle que subit le sujet qui s'endort ou qui s'éveille et ouvre le roman. Ce passage se présente comme un morceau détaché de la trame narrative. Il s'agit d'une addition tardive et il vient s'insérer à la fin du récit de la soirée à la Raspelière après une scène de dialogue entre le héros narrateur avec ce chasseur louche du Grand Hôtel qui le remonte dans sa chambre, et sans transition s'amorce une réflexion de nature essayistique menée cette fois-ci à la première personne du pluriel, et qui commence ainsi. Peut-être, chaque soir, acceptons-nous le risque de vivre en dormant des souffrances que nous considérons comme nulles et non avenues, parce qu'elles seront ressenties au cours d'un sommeil que nous croyons sans conscience. En effet, ces soirs où je rentrais tard de la Raspelière, j'avais très sommeil. Mais dès que les froids vinrent, je ne pouvais m'endormir tout de suite, car le feu éclairait comme si on eût allumé une lampe. Seulement, ce n'était qu'une flambée. Et comme une lampe aussi, comme le jour quand le soir tombe, sa trop vive lumière ne tardait pas à baisser. et j'entrais dans le sommeil, lequel est comme un second appartement que nous aurions et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Il a des sonneries à lui. Nous y sommes quelquefois violemment réveillés par un bruit de timbre, parfaitement entendu de nos oreilles, quand pourtant personne n'a sonné. Il a ses domestiques, ses visiteurs particuliers qui viennent nous chercher pour sortir. J'ai coupé là. Cette réflexion s'ancre dans le récit d'un endormissement dont il retrace les étapes. Et ce premier énoncé à valeur générale est immédiatement, le premier énoncé, donc chaque soir, peut-être chaque soir, acceptons-nous, est immédiatement illustré par un exemple tiré de la fiction qui ramène immédiatement le lecteur à la situation narrative sur laquelle est venue se greffer après coup cette réflexion sur le sommeil. L'usage du lien logique, en effet, est particulièrement intéressant parce qu'il appartient à la syntaxe du raisonnement et donc fait signe vers le genre de l'essai, comme si la fiction venait attester la validité de la réflexion à valeur générale. J'emploie à dessein ces formules modalisatrices, comme si ou fait signe, car il me semble que l'essentiel dans ces lignes tient justement dans le faire comme si. Proust fait comme s'il illustrait, à la manière d'un essayiste, une réflexion à portée générale par un exemple particulier. Alors que c'est en fait, il me semble, l'énoncé général qui vient s'appliquer au cas particulier. La locution, en effet, apparaît ainsi comme une couture apparente qui trahit la logique profonde de l'écrivain, puisqu'il s'agit en réalité de motiver l'insertion, à ce moment de la trame narrative, d'une réflexion de nature essayistique sur le sommeil. Le scénario génétique est important pour comprendre ce geste. Il s'agit en effet donc d'un passage ajouté par Proust sur la dactylographie corrigée de Sodome et Gomorre à la fin de l'année 1921, à l'intérieur de laquelle vient s'intercaler un morceau ajouté plus tardivement encore, en 1922. C'est le passage autour de l'attelage du sommeil. Donc ce scénario génétique pourrait venir confirmer l'hypothèse d'une volonté de motiver après coup cette insertion de la réflexion essayistique par la fiction. Le narrateur en fournit la preuve quelques lignes plus loin lorsqu'il opère un glissement à nouveau vers la situation narrative et fictionnelle du sommeil du héros au retour de la raspelière. Et c'est ma citation suivante. Donc, je reprends la fin de cette citation-ci. « Alors de ces sommeils profonds, on s'éveille dans une aurore, ne sachant qui on est, n'étant personne, neuf, prêt à tout, le cerveau se trouvant vidé de ce passé qui était la vie jusque-là. » S'ensuit une série de réflexions sur ces réveils au milieu de sommeils profonds qui se termine par un retour, qui se prolonge plutôt par un retour à la trame narrative, par la formule initiale sur ce morceau. Du moins dans ces réveils tels que je viens de les décrire et qui étaient la plupart du temps les miens quand j'avais dîné la veille à la Raspelière, tout se passait comme s'il en était ainsi. Et je peux en témoigner, moi, l'étrange humain, qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres. Tout se passe comme s'il en était ainsi, mais peut-être seule une couche d'étoupe a-t-elle empêché le dormeur de percevoir le dialogue intérieur des souvenirs et le verbiage incessant du sommeil. Car, au moment où le réveil se produit, le dormeur entend une voix intérieure qui lui dit « Viendrez-vous à dîner ce soir, cher ami ? Comme ce serait agréable ?» et pense « Oui, ce sera agréable, j'irai. » Puis le réveil s'accentuant, il se rappelle soudain « Ma grand-mère n'a plus que quelques semaines à vivre, assure le docteur. » Ce passage est bien connu, non seulement il adopte un ton solennel qui troue littéralement l'exposé essayistique, mais surtout il offre subitement au lecteur un quasi-autoportrait de Proust en oiseau nocturne qui projette le lecteur dans la réalité de l'écrivain, lui faisant ainsi non seulement franchir la frontière qui sépare la fiction du réel, mais aussi les frontières du temps et de l'espace. Pour l'introduire dans l'univers clos et angoissé de l'écrivain aux prises avec l'ouvrage du temps qui le précipite vers la mort. Le pronom de première personne renvoie ici à trois instances. Tout d'abord, le « je » que je n'ai pas mis en gras, le « je » du narrateur, ses réveils tels que je viens de les décrire. Ensuite, le « je » du héros fictif, sujet de l'expérience, mis en scène dans ce scénario qui vient illustrer la réflexion générale. Et enfin, ce « je » difficilement décidable, mais qui, me semble, vient attester la validité, en ce « je » ou plutôt ce « moi », qui troue l'exposé et qui vient attester la validité de l'expérience à la faveur d'une intrusion dont le contenu se révèle quasi autobiographique. Ainsi, le passage à une énonciation à la première personne accomplit, il me semble, un geste d'attestation, de témoignage, et marque un déplacement de la question de la vérité vers la question de l'authenticité de l'expérience, qui coïncide ici justement avec l'introduction d'un nouveau petit scénario fictionnel articulé autour de la figure du dormeur, que le narrateur plonge dans des situations qui rappellent très précisément des épisodes de sa vie à lui, ainsi de ce court dialogue autour d'une invitation à dîner, et plus encore autour de l'évocation de l'agonie de la grand-mère. Le jeu inséré dans le dialogue fictif imaginé pour actualiser cette figure du dormeur, semi-abstraite, semi-vivante, à la fois autobiographique et fictive, permet ainsi de jeter un pont entre récit personnel et généralité du propos. Par le biais de la formule « du moins dans ses réveils » tels que je viens de les décrire, Proust semble restreindre dans un premier temps la pertinence non pas de son exemple, de son morceau fictionnel, mais bien celle de l'énoncé général qu'il a introduit et qu'il était censé illustrer. Il faudrait alors comprendre, si l'on suit exactement le cours de cette logique, que c'est la fiction qui mène le jeu et que la maxime générale de cette action particulière n'était placée là qu'en guise de commentaire ad hoc. La maxime générale procéderait du récit de l'action particulière. C'est le commentaire qui est déduit de la fiction et non l'inverse. La suite de la phrase viendrait confirmer le sens de cette démarche, notamment avec l'utilisation de cette formule « le tout se passait comme si » qui rejette la loi générale, le commentaire, dans le flou d'une approximation, d'une sorte de théorie par défaut qui ne réussirait qu'à faire semblant de mimer l'authenticité de l'expérience proposée par la fiction. De même, la formule « je peux en témoigner, moi, l'étrange humain », par sa force performative, oblige à superposer le jeu fictif du narrateur, qui est en réalité le seul à pouvoir témoigner de ses propres réveils, et ce jeu qui pourrait être celui de l'auteur réel venant forcer la barrière de la fiction pour attester la validité de son exemple fictionnel. Ce passage offrirait ainsi en quelque sorte une preuve par la fiction. Ainsi, la théorie générale serait née de la fiction particularisante, et c'est ce qui fonderait sa validité. C'est au sein de ce dispositif que la fiction prend son autonomie et qu'elle finit par être englobante, engendrant un véritable monde qui comprend le narrateur lui-même, voire cette figure indécidable, nécessairement étrange, de cet auteur hibou. Ainsi, la posture de l'essai n'est que mimée dans la recherche. Elle est comme rejetée dans la fiction. Proust fait comme si, et il propose ce comme si à la fois comme une expérience de pensée propre au genre de l'essai et comme une invitation, pour ne pas dire une incitation, à la fiction. Il y aurait donc un statut particulier de la fiction dans la recherche qui lui assigne un rôle fondamental, celui de moyen de la pensée. Pour prolonger cette idée et l'approfondir, j'en viendrai donc au dernier temps de mon exposé, en me penchant sur l'usage que fait le narrateur de la recherche des fictions qu'il lit ou dont il est le spectateur. Et pour cela, je m'appuierai sur un dernier passage qui est celui où, dans Albertine disparue, le narrateur se sert de sa lecture de Phèdre pour analyser le scénario de sa rupture avec Albertine. Alors que le narrateur raconte l'épisode de la lettre envoyée par Albertine au héros dans l'espoir de la faire revenir, alors qu'il affirme que son retour serait une perte et un gâchis de leur vie, au milieu des commentaires sur l'efficacité de la stratégie à adopter vis-à-vis de la fugitive pour la faire revenir, au détour de la lecture d'une page du journal, le héros apprend la mort de la Berma qui fait renaître en lui le souvenir, je cite, des deux façons différentes dont il avait écouté Phèdre. Cette réminiscence suscite à ce stade de son expérience une nouvelle lecture appropriée à la situation présente de la scène de la déclaration dans Phèdre. Donc je vais lire le début, je progresserai dans la citation puisqu'elle est longue. Et je voulus rendre la lettre à Françoise. J'ouvris le journal, il annonçait la mort de la Berma. Alors je me souvins des deux façons différentes dont j'avais écouté Phèdre, et ce fut maintenant d'une troisième que je pensais à la scène de la déclaration. Il me semblait que ce que je m'étais si souvent récité à moi-même et que j'avais écouté au théâtre, c'était l'énoncé des lois que je devais expérimenter dans ma vie. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou bien si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour, par peur d'échouer ou de souffrir, d'entrer en leur possession. C'est ce qui m'était arrivé pour Gilberte quand j'avais cru renoncer à elle. Deuxième possibilité, ou bien si la chose est en notre possession, nous croyons qu'elle nous est à charge, que nous nous en déferions volontiers. C'est ce qui m'était arrivé pour Albertine. Mais que par un départ, l'être indifférent nous soit retiré et nous ne pouvons plus vivre. Or, l'argument de Phèdre ne réunissait-il pas les deux cas ? Hippolyte va partir, Phèdre qui jusque-là a pris soin de s'offrir à son inimitié, parce que Pulle, dit-elle, ou plutôt lui fait dire le poète, plutôt parce qu'elle ne voit pas à quoi elle arriverait et qu'elle ne se sent pas aimée, Phèdre n'y tient plus. Elle vient lui avouer son amour, et c'est la scène que je m'étais si souvent récitée. Ici, il s'agit pour le narrateur de dégager des maximes de l'action mise en scène dans Phèdre, dont j'aimerais noter le caractère extrêmement général, qui me paraît en affaiblir considérablement l'efficacité critique et l'application pertinente à l'œuvre de Racine, avec lesquelles elle ne semble entretenir qu'un lien assez lâche. C'est que l'énoncé de ces maximes, ou plutôt de cette maxime en deux temps, à deux coups, sert en réalité à commenter les épisodes amoureux de la vie du héros-narrateur. À la suite de ce passage vient une série de citations dont le narrateur va tirer une analyse de la psychologie de l'héroïne racinienne pour les tisser avec analyse qu'il tisse avec des rappels d'épisodes de sa propre vie, comme pour offrir au texte de Racine une résonance qui viendrait en assurer la validité. Alors je ne vais peut-être pas tout lire, mais vous voyez le jeu des citations qui s'intercale aux commentaires critiques. Et à la fin du commentaire critique, le narrateur énonce sa loi générale qui commente cet extrait de critique littéraire. Tant la jalousie, c'est la phrase soulignée, tant la jalousie qui est en amour équivaut à la perte de tout bonheur, est plus sensible que la perte de la réputation. C'est du moins ainsi, en réduisant la part de tous les scrupules jansénistes, comme eût dit Bergotte, que Racine a donné à Phèdre pour la faire apparaître moins coupable, que m'apparaissait cette scène, sorte de prophétie des épisodes amoureux de ma propre existence. Ces réflexions n'avaient d'ailleurs rien changé à ma détermination, etc. Alors, je vois deux points possibles de rapprochement avec le morceau sur le sommeil que nous avons vu tout à l'heure. D'abord, leur statut de passage réflexif, puisqu'ils sont tous deux intégrés à la trame narrative par Proust dans l'après-coup de la correction, au prix de quelques raccords aux jointures qu'on voit ici et qu'on a vu tout à l'heure, le narrateur étant contraint d'admettre que ses réflexions ne changent rien à sa détermination, ne changent rien à l'intrigue. C'est un geste qui me semble pouvoir affirmer l'autonomie, l'autonomie du discours réflexif par rapport à la fiction, qui serait chargé de l'illustrer. Mais cette logique apparente que le texte publié met en valeur est pourtant, il me semble, à rebours de la logique d'écriture profonde qui sous-tend ce geste. Comment ne pas y voir au contraire une motivation dans l'après-coup de l'insertion de l'essai dans la narration ? La restitution du sens de ce geste auctorial me paraît indiquer au contraire que c'est la fiction qui fournit ici son sens à la loi générale en nourrissant ces énoncés à valeur universelle d'une matière qui ne vient pas les illustrer avec exactitude, mais bien les charger d'une signification qui tire sa force de l'authenticité de l'expérience vécue. En effet, il semble que ce soit plutôt l'expérience personnelle du héros qui lui permette de faire résonner d'un sens nouveau la scène de Racine, les maximes généralisantes apparaissant, elles, plutôt en adéquation avec la trame, avec l'expérience du héros de la recherche et forgée à partir d'elle, plutôt qu'avec l'intrigue de Phèdre. L'autre similitude frappante entre le morceau sur le sommeil et celui-ci tient, il me semble, à la parenté des formules qui permettent de raccrocher l'exposé réflexif à la trame narrative. On avait tout à l'heure la formulation, du moins dans ses réveils, tout se passait comme s'il en était ainsi. Ici, on a une formule qui fait écho, du moins c'est ainsi, je crois que c'était sur la précédente. Je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas souligné. Non, c'est ici, après la coupure, là. C'est du moins ainsi en réduisant la part de tous les scrupules. Ces formulations souligne la distance prise avec l'énoncé généralisant. Le narrateur en souligne le caractère réducteur, la validité amoindrie par rapport à l'expérience relatée, dont il n'apparaît en fin de compte que comme une approximation par défaut. Le long commentaire critique auquel se livre le narrateur dans ce passage, citation de Phèdre à la pluie, semble alors tenir le rôle de justification, de motivation, à nouveau d'un rapprochement qui est apporté au bénéfice de la fiction, de l'expérience relatée plutôt que du commentaire. Et l'on pourrait, il me semble, appliquer à Proust ce que le narrateur dit ici de Racine, en en modifiant un peu sa formulation pour l'adopter à notre proposition de lecture. Je reformulerai ainsi sa phrase. C'est du moins ainsi, en mesurant bien la part de toutes les interprétations marcelliennes, comme eût dit un critique proustien, que Proust a donné à Phèdre pour la faire paraître plus proche de son héros, que m'apparaît cette scène de la recherche, sorte de mise en abîme des épisodes amoureux de sa propre trame romanesque. C'est donc une leçon sur la lecture, autant que sur la passion et la souffrance amoureuse que Proust livre ici. Tout ce passage repose en effet sur un dispositif de mise en abîme, pleinement motivé par le propos qu'il soutient, Phèdre jouant alors le rôle de fiction dans la fiction, selon une superposition complexe des niveaux de fiction, qui me paraît fournir un modèle pour l'usage que fait Proust de la fiction dans la recherche. Proust met en scène un héros fictif qui cherche dans sa propre vie l'application des fictions qu'il a lues et aimées, inversant ainsi la primauté du réel sur la fiction. L'expérience fictionnelle de la vie du héros-narrateur est tout entière dirigée vers une démonstration qui tire sa validité de la fiction elle-même, produisant cet effet de fictionnalisation de l'essai. Ce faisant, Proust propose dans ses pages une relecture critique de Phèdre, en l'incorporant à sa propre création fictionnelle, en une manière de critique fiction, j'emprunte le terme à Jacques Dubois, qui fait se superposer les personnages. Il crée ainsi une perspective, un vertige propre au dispositif de la mise en abîme, les personnages de la recherche apparaissant finalement comme moins fictifs, avec un degré de fiction en moins, aurait pu dire la grand-mère du narrateur, que ceux de l'œuvre de Racine. Ce geste peut donc être lu comme une mise à distance critique de la fiction. La fiction de Proust est en même temps une lecture et une réécriture critique de Phèdre, dont la recherche fournit par ailleurs plusieurs exemples. Ainsi, par cette mise en abîme, tout se passe comme si la trame romanesque, livrait au lecteur le modèle de l'usage de la fiction que le lecteur devrait suivre pour nourrir sa propre réflexion et devenir ainsi, en lisant la recherche, le propre lecteur de lui-même, selon la citation bien connue, et je terminerai là-dessus. Racine, donc cette citation bien connue qui incite le lecteur à devenir le propre lecteur de lui-même s'ouvre sur une référence à Racine. Racine avait été obligé, pour lui donner ensuite toute sa valeur universelle, de faire un instant de la Phèdre antique une janséniste. De même, si M. de Charlus n'avait pas donné à l'infidèle sur qui Musset pleure dans la nuit d'octobre ou dans le souvenir le visage de Morel, il n'aurait ni pleuré ni compris, puisque c'était par cette seule voie, étroite et détournée, qu'il avait accès aux vérités de l'amour. Appliquant alors à mon tour la leçon proustienne dont la trame romanesque fournit le modèle, je terminerai par une nouvelle réécriture de ce commentaire du narrateur pour l'adapter à Proust lui-même. Et en disant, Proust avait été obligé, pour lui donner ensuite toute sa valeur universelle, de faire un instant de son héros une héroïne racinienne. De même, si son narrateur n'avait pas prêté sa propre souffrance à la fille de Minos et de Pasiphae, dont Racine met en scène le déchirement amoureux dans la scène de la déclaration, s'il n'avait pas donné à Hippolyte le visage d'Albertine, il n'aurait ni pleuré ni compris, puisque c'était par cette seule voie, étroite et détournée, qu'il avait accès aux vérités de l'amour.
Merci. Merci beaucoup, Maya Laveau, de cette discussion intéressante des relations entre fiction et entre narration et essai dans la recherche. Et il me semble que ce dont il n'a pas beaucoup été question aujourd'hui, c'était la question de si, quand il y a commentaire et narration, vous avez très bien démontré, suggéré que, en fait, c'est la narration qui mène le jeu. Mais il y a des moments, il me semble, où la relation, où en fait les deux se contredisent. Est-ce que, et on n'a pas beaucoup parlé de ça aujourd'hui, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus?
Oui, c'est vrai. Souvent, effectivement, c'est comme ça que...
Il faut appuyer sur le...
Voilà, merci. En effet, on a pu dire, bah, comme l'a fait Vincent Descombes, que c'était la fiction qui... Pardon, que c'était la fiction qui proposait finalement... la leçon, ou en tout cas l'expérience constructive pour le lecteur, tandis que les maximes, elles apparaissent souvent, effectivement, soit comme en retard, soit comme des approximations qui sonnent comme des énoncés beaucoup plus atténuants. Alors ici, c'était une forme d'atténuation. Parfois, effectivement, c'est carrément une forme de contradiction. Et pas seulement parce que... Contradiction, je pense, pas seulement parce que on parlait tout à l'heure de... ce moment de l'illusion dans la recherche. Je crois que plus fondamentalement, elles sont en contradiction parce qu'elles n'ont pas l'authenticité. Enfin, je crois qu'il y a cette idée-là. La fiction permet un approfondissement, une approche, peut mimer la vie et sa complexité, je pense, plus que la loi générale. Et il me semble qu'à la lecture de la recherche, c'est aussi une des leçons de la recherche, finalement. C'est que ce discours théorique, il est toujours un petit peu en deçà de l'expérience, de la leçon qu'on peut tirer de l'expérience.
Je me suis demandé des fois si on pouvait pas comparer, si on ne pourrait pas comparer la relation là à la relation entre les fables et les moralités chez La Fontaine, par exemple, parce que on le croit sur parole, que en fait c'est ça l'explication, c'est ça la moralité qu'on peut en tirer. Mais si on regarde de plus près, il y a souvent une tension entre l'histoire et la moralité. Mais bon, j'ouvre ça au public, hein, cette discussion.